Radio Spirale. À l'automne 2010, Patrick Lapeyre était de passage à Montréal pour présenter son roman « La vie est brève et le désir sans fin » qui venait tout juste de remporter le prix Fémina. La rencontre se déroulait à la librairie Olivieri.
Mesdames et messieurs, merci d'être venus nombreux ce soir. Je m'appelle Marc Zafran, j'écris des romans sous le pseudonyme de Martin Winkler, mais c'est pas en tant que romancier que je suis ici ce soir, c'est en tant que lecteur. Tout ça, c'est la faute d'un écrivain qui s'appelle Georges Perec, qui est mort jeune, et qui était un écrivain qui donnait envie d'écrire aux gens qui écrivaient et qui les encourageait beaucoup. Faut pas me baisser le son juste comme je suis en train de parler, parce qu'autrement après... Et Georges Perec a été indirectement, mais par son influence et son impact, à l'origine de toute un désir d'écrire chez beaucoup beaucoup de gens, mais aussi un désir de lire. En 1984. Un an après la création de la maison POL par Paul Tchaïkovski-Laurence, qui est ici présent et qui était l'éditeur de Georges Perec, paraît un livre qui s'appelle « Le corps inflammable ». Moi, dans mon esprit, c'est toujours « les corps inflammables », mais c'est « le corps inflammable ».
C'est « le corps inflammable ».
Ouais, alors, vous voyez comme la mémoire du lecteur est fallacieuse. Dans mon esprit, ça a toujours été « les corps inflammables ». Il y a une très belle couverture avec une pellicule qui prenait feu. Tout de suite, ça m'a beaucoup frappé. J'ai lu le roman, c'était donc il y a 25 ans, et malheureusement, j'ai complètement oublié de quoi ça parlait, aujourd'hui, et j'ai pas eu le temps de le relire. Mais j'en ai gardé un souvenir suffisamment prégnant. C'est ce qui se passe quand on lit des livres qui vous impressionnent, et que vous avez l'impression d'être un peu bête quand vous lisez, parce que vous lisez de la littérature, et il y a certains types de littérature que vous n'avez pas l'habitude de lire. Et en même temps, vous lisez et vous vous dites, mais c'est vachement bien ce truc-là, comment il fait ? Et puis, quand on lit des écrivains de chez un éditeur, même quand après on devient soi-même un écrivain de l'éditeur en question, on continue à lire ces écrivains parce qu'on est un lecteur. Et je continue à lire Patrick Lapeyre en particulier. J'ai lu son avant-dernier livre qui s'appelait L'homme sœur. Et il y a 3 semaines, quand j'ai appris qu'il avait reçu le prix Fémina, j'étais extrêmement heureux. Et par un concours de circonstances, je venais ici et je parle à Rina Olivieri, je lui dis, voilà, vous avez vu que POL et Lapeyre ont eu le Fémina, oui, ce serait bien qu'ils soient bien ici. Tu veux pas le présenter, toi? Je dis ouais, pourquoi pas. Pourquoi? Parce qu'un lecteur adore s'approcher des écrivains qu'il lit. Et j'avais très très envie, évidemment, de parler de ce livre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre? Ce livre qui avec lequel l'auteur est venu nous voir. La vie est brève et le désir sans fin. J'ai appris, parce que je me suis complètement abstenu de lire toute forme de critique, de façon à ce que mon impression soit totalement vierge. Mais j'ai lu comme ça dans un entrefilet que tu disais que c'était un haïku ou quelque chose comme ça, le titre tu avais trouvé dans un...
Oui, c'est une citation d'un poète japonais qui s'appelle Issa, qui est un poète de la fin du 18e.
Bon, donc j'allais lui dire, comme il est beau ce titre, quel salaud tu es de trouver des beaux titres comme ça, mais maintenant je peux plus lui dire puisque il l'a fauché quelqu'un d'autre, mais il l'a bien fait, hein, c'est quand même un beau titre. Et justement, c'est tout à fait relevant, c'est tout à fait pertinent par rapport à mon sujet, puisque c'est un livre dans lequel on avance comme à la fois dans une sorte de monde qu'on connaît et de monde qu'on connaît pas. Alors, quelle est l'histoire ? L'histoire est assez simple et en même temps extrêmement compliquée. C'est l'histoire... Au début, on ne sait pas si c'est l'histoire d'un homme, d'un autre homme ou d'une femme. c'est que ma lecture, c'est que c'est l'histoire d'un homme qui est en relation directe avec une femme et en relation indirecte avec un autre homme. Et c'est une histoire qui se présente au départ comme une sorte de Jules et Jim revisité, mais c'est pas ça du tout. Entre un homme qui a pour particularité, c'est très important dans l'histoire, qui a pour particularité de pouvoir, quand il le veut, être à la fois là et pas là. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose qui le gêne, eh ben, il se débranche, littéralement. Ou plutôt, il se focalise sur quelque chose et tout autour de lui n'a plus d'importance. Or, en fait, il s'avère que nous allons voir à la lecture de ce livre que cet homme qui choisit de temps en temps de ne pas être là quand un certain nombre de choses le dérangent n'est peut-être pas là du tout. Ou en tout cas, il est peut-être le spectateur de sa propre vie. À la fin, on aura même l'impression que... je ne veux pas révéler la fin, parce que je trouve... Mais on aura l'impression que le roman est un roman dans lequel on est entré sans savoir exactement dans quoi on entrait, en rentrant par une sorte d'anecdote. On arrive dans un univers qui est un univers infiniment plus vaste que l'anecdote par laquelle on est entré. Et on quitte le livre en se disant « Mais attends, c'est que le début ». Nous n'avons pas exploré toutes les facettes de ce livre. Le sentiment général que j'ai à la fin de la lecture de ce livre, j'ai fini de le lire hier, c'est que je suis rentré dans un univers multiple, mais je n'en ai vu qu'une toute petite partie. C'est un livre qui présente des choses apparemment extrêmement simples sous des facettes multiples, avec des entrées différentes, c'est-à-dire à la fois le regard du personnage, le regard d'un autre personnage qui est à côté, mais aussi des allusions à des éléments de culture. Alors je voulais vous poser une question, mon cher Patrick Lapeyre, justement. Dans quel univers, parce que je sais que l'univers de roman, c'est pas cet univers-ci, dans quel univers est-ce qu'une femme qui doit avoir une quarantaine d'années, française, qui fait je sais pas quoi, du commerce, ou dans quel univers est-ce qu'elle s'assied devant un vieil épisode de Star Trek?
Ah, je sens l'amateur de série. Mais non, ça rien d'extraordinaire. Je connais beaucoup de gens d'une quarantaine d'années qui
en ce moment en France
qui revoient des Star Trek.
En ce moment en France.
Je ne sais pas si
pas en France.
Les dates ne sont pas précisées.
Pas en France, donc, aux États-Unis, au Canada, oui, mais en France non, sûrement pas. En France, il y a que toi qui connais et moi qui connaissons Star Trek en France. Oh. Donc c'était un micro commentaire pour te montrer qu'incidemment j'ai lu le bouquin, tu vois. Bon, je peux te dire. C'est un livre qui est très embêtant pour un lecteur qui est un lecteur qui est aussi un écrivain, parce que quand on est écrivain et qu'on lit un roman, on a toujours tendance à se dire « Bon, mais moi, comment j'aurais fait à sa place ?» Alors ça, c'est vachement pratique, parce qu'on se dit « Ouais, là, ou bien là, je le tuerais parce qu'il a fait... » Et là, j'ai pas du tout ce sentiment-là, c'est-à-dire que c'est un roman que j'ai lu en tant que lecteur, qui restait un lecteur, peut-être parce que j'avais commencé à lire tes romans avant de publier chez Peuvel, et que donc ça reste un écrivain que je lis et pas un collègue ou un confrère, mais aussi parce que c'est une manière d'écrire qui est extrêmement différente de la mienne. Par conséquent, je suis complètement dépaysé par le ton. Il y a deux mots que j'ai envie d'utiliser pour parler de ce roman, c'est l'ironie, bien sûr, ça je crois que tout le monde en a parlé de l'ironie, mais c'est aussi un roman d'une immense cruauté. C'est un roman très cruel. Très cruel avec ses personnages. Que l'auteur, comment dirais-je, à la fois maltraite et dont il se moque, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu, en permanence. Ça ne veut pas dire qu'il les aime pas, hein, ça, l'amour, il y a de l'amour vache des fois dans la littérature. Mais il y a une cruauté. La cruauté avec laquelle il traite son personnage, à commencer par son nom. Le personnage principal s'appelle Louis Blériot. Alors déjà, Louis Blériot, vous dites, bon, qu'est-ce qu'il va nous faire? Et il est amoureux de quoi? D'une Anglaise. On se dit, là, il se moque vraiment de nous. Et effectivement, c'est pas de nous qui se moque, c'est du personnage. D'ailleurs, à un moment donné, il va traverser la Manche en avion. Il va dormir dans l'avion, d'ailleurs. Louis Blériot dort dans l'avion en traversant la Manche. Et ce sera un voyage qui va prendre tout son sens, mais qui sera un voyage un peu sans lendemain. Alors, c'est rigolo de faire un personnage qui s'appelle Lou Blériot. Et qui... Ça n'est qu'une des toutes petites ironies du roman, parce qu'il y en a plein, à peu près à toutes les pages, voire trois fois par page. C'est surtout un roman, quand on cherche comment le qualifier, on pourrait, par exemple, l'intituler, il pourrait s'appeler l'éducation sentimentale, il pourrait s'appeler la confusion des sentiments, il pourrait s'appeler comme ça, avoir ce genre de titre, parce que, essentiellement, c'est un livre qui ne parle que des sentiments, que de la fluctuance du sentiment amoureux, que des petits décalages qu'il y a entre le sentiment amoureux d'une personne pour une autre, parce que des fois c'est l'amour de cet homme pour cette femme, mais des fois c'est aussi l'amour de cette femme pour un autre homme, une autre femme, et ces amours qui s'entrecroisent. Ça pourrait s'appeler Cigarette, pour citer un autre roman publié par POL, un roman d'Harry Matthews dans lequel beaucoup d'histoires s'entrecroisent, et dans lequel les sentiments s'envolent comme la fumée des cigarettes. Et à chaque page... il y a des phrases pour lesquelles, là, effectivement, on se dit, si je tenais le type entre mes mains, je le tuerais. Pourquoi il est capable d'écrire ça, et moi, j'y ai pas pensé avant? Ça, c'est dégoûtant. En général, c'est bon signe. C'est bon signe, mais ça entretient la lecture dans une sorte de sentiment, dans un mélange d'admiration et de frustration. Et je voudrais juste vous lire un tout petit extrait, peut-être même deux. Et après, je vais le passer à la question, parce que c'est pas le tout, ça. J'avais corné les pages, et je sais plus où c'est. Voilà. C'est Blériot est chez un de ses amis, qui s'appelle Tannenbaum, qui est un homme qui apparemment est fatigué, qui dont la vie est en train de se terminer, enfin, on le sent plus ou moins. Et Tannenbaum lui dit « Est-ce que tu connais le secret le plus universel et qui pourtant n'a jamais transpiré? Le secret le plus hermétiquement secret. Le secret qu'on n'a jamais écrit nulle part. Le secret, lit-il en ajustant ses lunettes, le plus universellement divulgué et qui pourtant, des hommes de 40 ans, n'est jamais passé par-dessus les 37 ans, par-dessus les 35 ans. Le secret qui n'est jamais descendu aux hommes d'en dessous. » Tu sais ce que c'est ? Non, je t'écoute, Léonard. Les hommes ne sont pas heureux. C'est dégoûtant d'écrire des trucs comme ça, je trouve. Ou alors, par exemple, il redescend donc dans la rue en suivant sa pente, sans se soucier de savoir où il va, parce qu'il y a des circonstances où, quoi qu'on fasse, on va toujours nulle part. Alors quand on lit comme ça des petits extraits d'un livre, on se dit, mais qu'est-ce que ça nous dit sur le livre ? Ça ne vous dit rien sur le livre. Ça vous dit rien sur le livre parce que précisément, c'est le genre de livre dont on peut raconter l'anecdote rapidement, mais l'anecdote ne vous dit rien, parce que c'est pas l'anecdote qui tient le livre, l'anecdote est la trame du livre. Ce qui vous dit quelque chose sur le livre, c'est l'expérience que l'on fait en lisant le livre. Et là, je voudrais poser une question à Patrick Lapeyre. Moi, je l'ai ressenti comme une expérience littéraire. Bon, d'accord, mais c'est pas ça. C'est plutôt une expérience émotionnelle, une expérience presque plastique. Et je suis pas un grand amateur de d'art plastique, donc je le dis de façon, intuitive. C'est pas, mais comme une expérience plastique, même au sens d'ailleurs où à un moment donné, je crois que tu dis le cerveau humain. Non, les hommes aimeraient que le passé ait une plasticité qui leur permette de retourner. Enfin, peut-être que je télescope plusieurs choses, mais tu parles de plasticité du cerveau ou des émotions à un moment donné. Si tu te souviens pas de ce que tu as écrit, là, c'est problématique, mais c'est pas grave. Tu pourras le relire ce soir. Et la question que je voudrais te poser, c'est un livre comme ça, qui est une expérience tellement particulière pour le lecteur, mais donc pour l'écrivain qui l'a écrit, comment ça vient ? C'est-à-dire, au départ, pour écrire un livre, je crois que tu as mis plusieurs années à l'écrire, hein, 4 ou 5 ans. Comment ça commence?
Oui, j'ai mis 5 ans. Alors, comment ça commence? J'ai tendance à oublier les commencements, évidemment. Alors, disons, effectivement, je crois qu'il y a une perception plastique, effectivement. C'est-à-dire que la première chose, c'est une recherche musicale. La musique d'une phrase comme ça, ça peut être purement grammatical. L'exemple par exemple, de Duras, son titre « Détruire, dit-elle ». Le rejet du « dit-elle » comme ça me frappe. Et donc, je cherche un type de phrase qui flotte et qui me donne la note que je vais essayer de tenir pendant tout le roman. Donc le souci est d'abord stylistique et musical, c'est-à-dire c'est une forme vide, mais une forme musicale qui précède tout. Je vais essayer de rejoindre cette forme que j'ai devant moi, qui flotte devant mes yeux ou devant mes oreilles, comme ça, et que j'essaie de rejoindre. Je pars toujours d'une intuition plastique, musicale, effectivement. Ensuite, s'associe à ça des images, ça serait la partie visuelle, disons, du travail, des images qui sont ce qu'on appellerait des images du subconscient, qui reviennent sans doute d'un passé très très profond, qui peut être un passé personnel ou un passé de spectateur, telle image de film, je ne sais quoi. Voilà, des images simples mais obsédantes que j'ai devant les yeux et dont je ne vois pas le rapport. Ce sont des images très très différentes les unes des autres. Et inventer une histoire, ce sera essayer de trouver un lien entre ces images qui flotte devant moi. Et puis il y a une perception encore plus plastique des choses, c'est-à-dire que le livre me paraît être effectivement une espèce d'objet que j'ai envie de créer, dont je vois vaguement la forme. Et à la fin, quand j'ai terminé mon livre, je sens que l'objet est clos. Et il est tellement clos, tellement dense, comme une sphère qui serait achevé, que je ne peux plus rien ajouter. C'est-à-dire que quand j'ai écrit la dernière phrase et que j'ai mis le point final, je ne peux plus rien ajouter. La sphère est d'une densité totale. Et entre le moment où j'ai terminé le livre, c'est-à-dire j'ai mis le point final, et le moment où je vais le corriger, il va se passer encore des semaines, et je peux avoir la tentation d'ajouter telle chose. Et j'ai eu la tentation cette fois-ci, c'est une anecdote qui m'amuse et qui a fait plaisir à mes amis, parce que j'étais allé voir des amis qui avaient deux chats dont les noms m'ont paru extraordinaires. Ils s'appelaient Moshé et Pointu, et je me suis dit, mais c'est extraordinaire ces noms, Moshé et Pointu. J'étais envieux et je me suis dit, mais il faut à tout prix que je les mette dans mon roman. Le roman était fini et je voyais très bien qu'avec le personnage de Leonard Tenenbaum, vieux célibataire vivant chez lui, je me suis dit, voilà, Leonard Tenenbaum pourrait très bien avoir deux chats qui s'appelleraient Moshé et Pointu. Et j'ai donc revisité mon roman et je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à rentrer ces deux chats. Et là, j'ai eu cette sensation plastique que l'œuvre était finie, comme une structure fermée sur elle-même, où je pouvais même plus introduire une tête d'épingle. La densité était totale. Et c'était tellement dense que je pouvais plus rien ajouter.
Je voudrais revenir sur les personnages. Louis Blériot est un homme d'une quarantaine d'années. Il a été amoureux, il est marié. Il a été amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Nora, qui est anglaise, et qui a disparu, qui est partie sans rien dire 2 ans auparavant, enfin, dont il a été l'amant. Et brusquement, elle revient. Et donc le roman commence quand elle revient. Quand elle revient, et on va voir que ce retour, c'est un retour qui est extrêmement fluctuant. Et puis autour de Louis, il y a ses relations avec son épouse qui sont aussi assez compliquées. Il y a les relations qu'il a avec ses parents. Il a une relation à l'argent très particulière. Louis est tout le temps fauché. On se demande s'il n'est pas un peu joueur, parce qu'on ne sait pas où son argent passe. C'est jamais, enfin, en tout cas, si j'ai bien lu, c'est jamais dit exactement. Mais il est toujours fauché. Il est toujours fauché alors qu'il a une femme très riche. qui de temps en temps lui rallonge un peu le un peu d'argent dans son compte en banque. Et donc c'est un tapeur, il tape tout le monde, il tape ses parents, il descend ensuite de la France voir ses parents, il va les taper, il tape son ami Tannenbaum qui lui aussi est très riche, il tape sa femme, etc. Enfin, il tape pas sa femme, mais je veux dire, il lui prend de l'argent. Et il a donc une sorte de situation un peu particulière. Il fait des traductions pour vivre. Situation un peu particulière, c'est que lui-même, c'est un personnage qu'on sent flottant. Il flotte. Il est à la fois là et pas là. Alors, est-ce que le personnage, une fois que tu as eu ton désir musical, est-ce que les personnages sont venus s'insérer dans le désir musical, ou tu avais déjà les personnages et tu les as associés à ce que tu voulais faire? Comment c'est venu
D'une sorte de défi, parce que j'avais écrit L'homme-sœur, qui est donc l'histoire d'un homme qui attend sa sœur qui vit aux États-Unis. Il a une espèce d'amour étrange pour cette sœur et il s'enfonce dans une solitude sans fin en attendant cette sœur. Et je m'étais dit, le prochain roman, je vais faire exactement l'inverse. Je vais écrire l'histoire d'un homme qui... Et le roman commencera au moment où il retrouve l'autre. Donc je voulais inverser complètement la structure. L'homme-sœur, c'est l'histoire d'un homme qui ne cesse d'attendre sa sœur. Et La vie est brève, c'est l'histoire d'un homme. Et ça commence exactement à l'instant, le jour de l'ascension, où il reçoit le coup de téléphone qui lui annonce que Nora est revenue. Voilà. Donc il y avait une espèce de défi, de pari que je faisais comme ça, de commencer mon roman par le retour de quelqu'un. Parce que je me disais, j'ai suffisamment exploré l'attente. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'explorer le retour. Parce que le retour, c'est aussi une expérience tout à fait extraordinaire dans une vie où on a attendu. Et qu'est-ce qui se passe quand l'autre revient? Voilà, c'était le défi que je me lançais.
Mais c'est pas seulement un livre sur le retour, c'est aussi un livre sur l'alternance de l'absence et de la présence. Alors, ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est qu'il y a donc un autre homme dans la vie de Nora. C'est l'homme avec lequel elle vivait avant de retourner à Paris. Retrouver Louis, on sait pas très bien pourquoi d'ailleurs, parce que c'est, faut pas chercher d'explication hein, dans le livre de Patrick Lapeyre, vous allez trouver plus de questions que de réponses. C'est je trouve d'ailleurs que c'est pour ça que c'est un livre qui est fascinant pour le lecteur, c'est parce que c'est au lecteur de faire travailler son imaginaire à partir de certaines bribes que tu lui donnes pour remplir des tas de trous. C'est un livre plein de choses, mais plein de trous. Il faut remplir des... Il faut donner les réponses aux questions qui se posent et auxquelles l'auteur ne donne pas de réponse. Et donc, il y a un autre homme qui s'appelle Murphy, qui habite en Angleterre, qui est américain, qui habite en Angleterre. Et on suit en parallèle la présence de Nora à Paris et l'absence de Nora à Londres, puisqu'elle apparaît aussi brusquement, elle réapparaît aussi brusquement dans la vie de Louis qu'elle a disparu brusquement dans la vie de Murphy. Et donc, il y a une sorte de parallélisme qui donne à penser à un moment que finalement tu as voulu explorer en même temps, enfin tu as voulu explorer aussi l'impact sur des hommes qui sont peut-être deux figures du même homme, d'une femme qui est à la fois là et pas là.
Oui, je pense qu'on peut le voir comme ça. Enfin, quand on écrit un livre, on l'analyse pas. Hein. Donc après, on en parle. Je l'ai terminé, j'en fais le commentaire. Mais évidemment, quand j'ai écrit, je réagis de manière instinctive, comme tout écrivain. On fonctionne à l'instinct, à l'intuition. J'ai senti tout de suite qu'il fallait qu'il y ait cette opposition entre les deux hommes, entre les deux espaces, Paris et Londres, entre Murphy, trader, qui gagne beaucoup d'argent à Londres, etc., qui est le conjoint officiel de Nora, et Blériot, effectivement, toujours en difficulté quant à l'argent, et qui va devenir l'amant de Nora. C'est donc l'exploration de deux types d'hommes, mais qui tous les deux sont liés à la même femme, et c'était donc écrire un roman sur le désir, dans une soumission commune des deux au désir. C'est-à-dire que même si Nora n'est pas là, l'autre continuera de l'attendre, et quand elle reviendra, il l'acceptera. Et vice-versa, quand Nora quitte Blériot et qu'elle revient ensuite à Paris, enfin ça recommence. Je voulais pas explorer ce type de relation de manière psychologique ou morale. Je voulais faire un roman sur le désir, c'est-à-dire des gens qui vivent la fascination qu'exerce sur eux le désir, parce qu'ils sentent que ils sont peut-être au meilleur d'eux-mêmes lorsqu'ils se laissent aller au désir. Alors on peut dire, mais c'est absurde, mais pourquoi ils n'interviennent pas, pourquoi ils ne font pas ci, pourquoi ils ne font pas ça. C'était pas ça qui m'intéressait. C'était vraiment la puissance du désir sur les êtres. Le désir pris pas forcément en termes sexuels, c'est ça aussi, mais le désir comme puissance de vie. Ils vivent à basse intensité, chacun de leur manière, et puis tout à coup, grâce à Nora, ils atteignent une haute intensité. C'est la ligne à haute tension du désir qu'ils vont connaître, et ils y vont. Ils y vont, chacun sentant qu'il est sans doute en train de faire une expérience absurde et sans issue, et chacun s'y soumettant, parce que il a sans doute l'intuition que le désir, c'est ce qu'il y a de plus fort, de plus profond dans notre existence, et que ça se vit très rarement dans une vie, et qu'il faut l'assumer jusqu'au bout. Et donc ils l'assument tous les deux jusqu'au bout, en fermant les yeux, comme on fait quand on fait un grand saut, et ils font le saut du désir. Je me suis inspiré parmi les philosophes qui m'inspirent, parce que je fais partie des auteurs qui aiment bien la philosophie. Je lis la philosophie en ayant la chance de pas être professeur de philosophie, c'est-à-dire je vis pas la philosophie de manière sérieuse mais passionnelle, et je lis la philosophie comme on lit de la poésie, mais elle m'est aussi indispensable que la lecture de la poésie. Et parmi les philosophes que je fréquente, que j'aime, il y a Kierkegaard. Et Kierkegaard, c'est sans doute celui qui a le mieux formulé ce rapport à l'absurde, à ce qu'il appelle le possible, c'est-à-dire cette espèce de pari qu'on fait sur le possible. Le désir, c'est ça, c'est le possible. Alors on peut le possible, on peut lui donner des synonymes, c'est l'infini, c'est l'absolu, c'est ce qu'on veut. Voilà, on fait un pari, on jette les dés. On ferme les yeux et on y va. Et les personnages que j'ai inventés sont des personnages qui sont comme ça. Ce que Kierkegaard appelle le chevalier de l'infini ou le chevalier de la foi. Et la différence entre les deux personnages, c'est peut-être que l'un se perd dans le désir, dans le possible, parce qu'on peut se perdre dans le possible, on perd le sens de la réalité, c'est Blériot. Et il y en a un qui, au contraire, maintient Père Nora, mais conserve le désir, c'est le plus fort, et c'est Murphy. Voilà. Kierkegaard disait que celui qui est le chevalier de la foi, c'est-à-dire celui qui a réussi ce saut, eh bien, il s'en faisait une idée, parce qu'il se disait, mais c'est qui le chevalier de la foi? Comment je me le représente? Et il disait, voilà, je me le représente, c'est un petit bourgeois qui le dimanche soir se met à sa fenêtre et regarde passer les gens qui reviennent de la campagne. Et voilà, Murphy, c'est pour moi, c'est ça, une sorte de petit bourgeois dont on devine pas qu'intérieurement il a réussi le saut. Il a l'infini en lui.
Ça me fait penser. Alors, c'est pas un passage qui concerne Murphy, mais ça me fait penser immédiatement à ce passage où Blériot est un peu perdu dans sa relation avec Nora, parce que elle est revenue, elle est repartie. Enfin, je sais pas exactement où il en est. Et donc Patrick Lapeyre le décrit dans une toute petite scène qui est autosuffisante et qui est celle-ci. Le lendemain, en passant en voiture devant un lotissement à la périphérie de Montpellier, Blériot aperçoit une jeune femme très brune qui attend à son portail, vêtue d'un simple peignoir passé par-dessus son pyjama. Elle a dû s'habiller précipitamment et sortir pour intercepter le facteur ou un livreur quelconque. D'une main, elle tient un simple parapluie à rayures rouges. Il roule au pas, sans la quitter des yeux. Tandis que de l'autre, elle tente de ranger une mèche de cheveux derrière son oreille. Elle est si parfaite, pense-t-il, si inconsciente de sa perfection, qu'on pourrait trouver légitime d'arrêter là son voyage et de lui demander poliment la permission de fonder une descendance avec elle. Pendant qu'il réfléchit ainsi au volant, les pneus de la voiture font craquer le gravillon de la contre-allée. Parvenu à sa hauteur, il baisse la vitre. Elle penche la tête, croyant qu'il a besoin d'un renseignement. « Vous n'êtes pas marié ?» Mais Blériot se contente de lui sourire en la regardant dans les yeux, avant de s'éloigner tout doucement, sans descendance. C'était son moment de contemplation. Il y a quelque chose... comment dirais-je ? C'est, pour moi, c'est le seul moment du roman dans lequel, d'une certaine manière, Blériot ne souffre pas.
Oui, enfin, je crois qu'il y a d'autres romans où il est, séquences où il est heureux.
J'ai pas dit qu'il était malheureux, j'ai dit qu'il souffre pas.
Il souffre pas, oui. Alors, est-ce qu'il souffre à chaque fois? Là, je me suis pas posé la question comme ça. Disons que c'est vrai que c'est un roman sur la souffrance de l'amour. C'est un roman cruel. Tu as raison de le dire.
Plus cruel que ça, tu meurs. Hein.
Oui, parce que le désir est...
Mais non, mais c'est beau, c'est cruel, mais c'est beau, mais c'est cruel quand même.
Mais il y a une forme de cruauté du désir. Je pense, tout d'un coup, je pense au cinéaste, un cinéaste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Romer. Le cinéma de Romer, qui est un cinéma de comédie, a priori, est un cinéma extrêmement cruel. Il y a toujours une cruauté du désir. Je pense que là, il y a cette forme de cruauté. Mais je pense aussi que c'est un roman sur le bonheur d'aimer. Il y a beaucoup de plages de bonheur, de plages de lenteur, où les personnages, notamment Blériot et Nora, sont dans une chambre. Il y a plusieurs scènes comme ça de chambre, disons, comme on parle d'une musique de chambre. Il y a des scènes de chambre où on les entend juste parler, on devine qu'ils partagent un bonheur amoureux. Et ce sont comme des instants suspendus, et j'espère avoir capté quelque chose du bonheur d'aimer à cet instant-là. On perçoit moins les mots qu'ils disent, qui sont des mots relativement banals, que leur respiration, parce que ce sont des grandes scènes de respiration dans la pénombre, comme ça, d'une chambre. Et je m'étais dit ensuite, un roman, grâce au dialogue, ça doit avoir une fonction respiratoire. C'est-à-dire que non seulement on perçoit la respiration des personnages, mais soi-même, on apprend à respirer en étant heureux. Et j'espère toujours que les lecteurs, quand ils referment le livre, respirent mieux. Parce que le livre leur a donné une sensation de beauté, disons, qui les fait mieux respirer, ou du moins respirer avec plus d'amplitude. Mais ce thème de la respiration est constant dans le roman. D'ailleurs, très souvent, les personnages se mettent à la fenêtre. Il y a une la passion amoureuse, c'est suffocant. Et ce qui m'intéressait, c'est de faire alterner à ces phases de suffocation, de faire alterner des phases d'aération et de respiration. Un peu comme au cinéma, on fait alterner des plans extérieurs et des plans intérieurs. Et donc il y a des moments très resserrés, des moments asphyxiants, puis des moments où la respiration redevient fluide et où on respire avec les personnages et on sent leur bonheur. Enfin, voilà comment je perçois les dialogues. Parce que c'est la première fois que j'utilisais autant le dialogue dans un roman. Jusque-là, je me méfiais du dialogue, parce que c'est bien connu. Flaubert était déjà phobique à l'égard du dialogue, parce que le roman, le dialogue casse la petite musique narrative.
Mais d'ailleurs, tu mets pas de tiret. Dans ces dialogues, il n'y a pas de tiret pour introductif du dialogue. Les dialogues sont intégrés au texte lui-même. C'est-à-dire qu'ils sont... Tout à l'heure, tu as commencé en parlant de Duras, en parlant de détruire, dit-elle. Et je viens de me rendre compte, quand tu parlais de respiration, que pendant tout le film, pendant tout le livre, j'ai pensé à India Song. C'est-à-dire, je les voyais se déplacer, tu sais, dans India Song, cette façon qu'ils ont d'être à la fois extrêmement immobile et extrêmement présent. Très souvent, les scènes d'India Song, c'est comme des tableaux où les personnages bougent peu. Et moi, je les voyais se déplacer dans le roman comme ça. Alors, tu vois, c'est...
Oui, on peut multiplier les références cinématographiques. Les auteurs sont évidemment aujourd'hui influencés par le cinéma. Il est rare de tomber sur un auteur qui ne soit pas cinéphile. Ma référence à propos des dialogues dans une chambre, c'est une référence que vous connaissez sans doute tous. C'est à bout de souffle. À bout de souffle.
Oui.
Vous voyez, je parlais de respiration. Ouais. parce que j'ai trouvé extraordinaire, enfin c'est un film extraordinaire évidemment, quand on pense que c'est un premier film en plus de ça de Godard.
Il n'en a jamais fait de meilleur après d'ailleurs.
On peut discuter, mais en tout cas c'est un film extraordinaire et je trouvais formidable en revoyant ce film de réussir cette performance, de mettre deux acteurs dans une chambre et de faire des séquences qui durent des minutes et des minutes et de faire des séquences qui soient une pure jubilation. On jubile, enfin moi je jubile, j'imagine que beaucoup d'entre vous avaient jubilé en lisant ce, en voyant ce film, voyons qu'on fond lire. Et voilà, ça c'était aussi une forme de défi, c'est-à-dire être capable d'écrire des séquences de chambre en me donnant pour objectif, en me souvenant des scènes du mépris ou des scènes de à bout de souffle comme ça, où un couple se déplace dans un appartement ou se trouve dans une chambre, et puis de faire de longs plans comme ça, où ils ne font effectivement que se déplacer et en même temps être immobile, on peut dire, puisque l'espace est quand même relativement restreint, et que ça donne non seulement la jubilation de leur rapport amoureux, de l'ironie qui peut se glisser, tout ça, mais aussi une émotion et une sensation poétique. Parce que la chambre est peut devenir un lieu de poétique, parce que c'est une chambre d'écho, où on a l'écho du monde extérieur, l'écho de la chaleur, l'écho de la ville, l'écho de la vie extérieure. Et cette fonction chambre d'écho, j'avais envie de l'explorer. C'est pour ça que j'aimais beaucoup les scènes de chambre. Mais les scènes de chambre sont aussi les scènes les plus difficiles à écrire, parce que comme toutes les scènes de chambre, il faut dire appeler les choses par leur nom, sont des scènes sexuelles généralement. Et les scènes sexuelles sont de très loin les plus difficiles à écrire. Et c'est des scènes que j'appréhende toujours, pas du tout par pudibonderie, mais parce que techniquement, c'est ce qu'il y a de plus difficile à réussir, c'est là où il y a le plus de clichés, là où on peut se rater totalement. Je connais des tas de bons écrivains qui se ratent sur les scènes sexuelles, et moi j'essaie surtout de pas me rater sur ça, et de faire des scènes qui ont une émotion, une légèreté, une intensité poétique qui fait qu'on n'attend qu'une chose, c'est qu'il y ait une autre scène comme ça. Pas du tout par voyeurisme, mais parce que c'est des scènes en apesanteur. C'est très très difficile. Après, les gens me demandent, mais pourquoi vous mettez 5 ans à écrire un livre? C'est parce que j'affronte aussi des difficultés de ce type et qu'il me faut parfois des semaines pour résoudre. Les difficultés que me pose une scène de ce type, que j'appréhende quand je la vois venir des semaines à l'avance et que je sais que la semaine du 15 au 22, il va falloir que j'écrive cette fameuse scène sexuelle.
Parce que tu programmes d'écrire telle scène du 15 au 22.
Oui, du 15 au 22, j'en rajoute, mais je sais, disons, dans la ligne que je suis, je sais qu'à un moment donné, dans quelques pages, dans 10 pages, dans 20 pages, à peu près, il y aura une scène comme ça qui va se passer.
Il va falloir y passer.
Il faudra y passer, oui. Et j'appréhende toujours. En même temps, c'est celle que je préfère écrire, sans doute. Si je devais écrire 3 scènes, on dirait, il y aurait sans doute au moins deux qui seraient des scènes de chambre. Mais elles sont très, très, très dures à écrire.
Je voudrais parler de deux petits faits techniques. Alors là, c'est le. Oui, je voudrais préciser que avant, aujourd'hui, je connaissais pas Patrick Lapeyre. Je l'ai croisé peut-être 2 fois, une fois sur le salon du livre, sur le stand de P.O.L., une fois dans la maison, mais on n'est pas amis intimes. Hein. Je lui pose vraiment des questions aujourd'hui qui sont les questions qu'ils ont vues à la lecture du roman sans le connaître. Et là, je voudrais poser 2 questions qui sont des questions donc de technique d'écriture, ou en tout cas de ce que j'en ai perçu moi en lisant. Quand tu parles de tes personnages, pour schématiser, hein, c'est très schématique, tu décris leur action, tu dis quelque chose sur ce qu'ils pensent au moment où ils font cette action. Et juste après, il y a un commentaire qui est un commentaire de l'auteur, c'est-à-dire il fait ça, il pense telle chose, mais il faut quand même préciser que il a pris une bonne biture, donc c'est pour ça qu'il est comme ça. Et donc il y a toujours cette composition dans laquelle on voit, alors pour prendre une analogie visuelle, dans laquelle on voit le personnage, son mouvement, mais aussi on voit quelque part la teinte du ton de l'auteur sur l'image. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quelque chose qui te paraît, enfin, qui est nécessaire à la façon dont tu écris. Enfin, c'est...
Oui, bon, la présence du narrateur, elle sert à créer une, ce qu'on appelle une légère distanciation. C'est-à-dire que si le narrateur n'est pas là et ne commande pas les faits et gestes des personnages et qu'il se contente de les décrire, le lecteur tombe dans l'illusion que c'est vrai, que les personnages, je vais les rencontrer demain matin et je vais prendre le thé avec eux. Non, les personnages, c'est de la littérature, ils sont fictifs, et donc le narrateur intervient toujours, non pas grossièrement pour dire « mais attention, ça n'est que de la littérature », mais finalement son ton, son ironie, sa distanciation rappellent au lecteur qu'on est toujours dans une histoire qui est écrite, et que voilà, on est en train de lire de la littérature et on n'est pas en train de manipuler les émotions du lecteur en lui faisant croire que ça s'est absolument passé comme ça. C'est ça la fonction ironique, disons, du narrateur. Alors c'est quelque chose de très difficile parce que les scènes, elles doivent avoir leur émotion, elles méritent d'avoir leur émotion. Une scène de rupture, une scène de rencontre, etc. Ce sont des scènes qui sont chargées d'émotion. Et en même temps, il faut qu'il y ait cette légère distanciation. Et l'ironie, la distanciation, ça risque toujours de casser, évidemment, l'émotion. Et là, il y a un équilibre très difficile à trouver entre cette intervention du narrateur, son ironie discrète, et l'émotion, la charge émotionnelle de la scène. Et il faut faire en sorte que je bride mon démon ironique, et que j'arrive à faire passer la scène avec sa charge émotive et l'émotion que ressentent les personnages, de façon à ce que le lecteur ressente aussi cette émotion. Donc ça aussi, ça fait partie des grandes, grandes difficultés. Oui, je parle toujours en termes de difficultés. Mais c'est vrai, ça aussi c'est difficile, et souvent la scène risque de basculer d'un côté ou de l'autre, ou elle devient comique, et donc il n'y a plus d'émotion, ou alors il y a trop de charges émotives, et là je me dis non, c'est pas possible, je suis dans le pathos, et il faut revenir à une scène plus légère. Il y a toujours ce souci de légèreté. Voilà, le modèle musical, j'ai dit que je commençais par le modèle musical pour moi absolu, évidemment c'est Mozart, c'est-à-dire la capacité dans un opéra à dégager de l'émotion et à être infiniment léger. Voilà, bon, n'est pas Mozart qui veut, mais en tout cas c'est un modèle, puisque je parlais de l'influence de la musique.
Je voudrais, la deuxième question technique, c'est, comme toi, je suis quelqu'un qui, quand il écrit, cite beaucoup, enfin, essaye de renvoyer à des images que j'ai, ou des images que d'ailleurs, je suis pas le seul à avoir, mais peut-être que les lecteurs ont, qui vont évoquer une tonalité, ou un trait d'humour, ou comment dirais-je, un sentiment particulier, en faisant allusion, par exemple, à des personnages, à des acteurs de cinéma, ou à des personnages. Et je me suis demandé si c'était des choses qui étaient toujours... Je reviens à mon Star Trek. À un moment donné, le personnage, donc, je me rappelle plus s'il est en train de voir Nora ou pas, ou si Nora est repartie à Londres, mais enfin... Il retourne chez lui et puis il fait comme si de rien n'était avec sa femme, et sa femme lui dit « Viens t'asseoir avec moi sur le canapé, on va regarder un vieil épisode de Star Trek ». Donc il s'assied et puis tu décris très très rapidement la fin, c'est la fin de l'épisode. Bon, tout est rentré dans l'ordre grâce à Spock, dit McCoy, et bon, alors cap sur la planète et tout
sur Tantalus.
Sur Tantalus, Tantalus, bien sûr. Donc là, on voit que tu as composé ta petite scène de Star Trek pour servir de contrepoint à ta scène. Mais à un autre moment, il y a un truc qui m'a beaucoup frappé, c'est tu dis, il s'éloigne comme Fred Astaire et Judy Garland. Et là, je me suis dit, mais dans quel film est-ce qu'il peut y avoir à la fois Fred Astaire et Judy Garland ? Et j'étais incapable de retrouver le film. Alors, j'aurais pu aller sur Wikipédia chercher dans quel film il y avait les deux. Et je me suis dit, mais c'est peut-être pas ça le truc. Il voulait Fred Astaire et Judy Garland, c'est pas un film, c'est de là.
C'est moi qui ai fait le film.
Voilà, c'est ça.
Ils ne s'étaient jamais rencontrés, voilà, j'ai voulu qu'ils se rencontrent.
Donc, voilà.
Donc il y a des... Ils dansent, ils marchent en dansant dans mon livre. Mais je pense, parce que je méfie de mes références, mais je pense qu'il y a un film où ils sont ensemble, mais je serais incapable de le citer. Mais on pourrait faire des recherches.
Donc voilà, donc ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, ces références peuvent être des fausses références fabriquées, c'est-à-dire que tu puises dans un matériau, et à la limite, ça n'a strictement aucune importance, mais ça crée une connivence, un degré supplémentaire de connivence avec le lecteur, parce que tu cites pas simplement quelque chose que le lecteur connaît, tu réinventes quelque chose que le lecteur peut connaître, et c'est là que je dis que à de très nombreuses reprises, ça c'est un exemple un peu trivial, un peu visible, mais à de très nombreuses reprises, le lecteur est obligé d'habiller, de remplir, de mettre la musique justement, d'investir le texte qui a à la fois la tonalité que tu as voulu lui donner, mais aussi qui donne une très grande liberté. C'est pas un texte verrouillé, c'est un texte dans lequel le lecteur peut mettre les mains.
Oui, j'ai une très grande confiance dans mes lecteurs. Il me semble qu'une œuvre moderne, mais c'est pas pour être moderne, mais voilà, est une œuvre où le lecteur a forcément sa place et remplit tous les vides effectivement du texte. L'exemple a contrario, c'est Balzac, que j'admire beaucoup évidemment. Mais Balzac, c'est une littérature de 1830. Et Balzac ne laisse aucun espace au lecteur. Je veux dire, Balzac décrit tout. Il décrit le personnage physiquement, il décrit son vêtement, il le décrit moralement, il le juge. On sait que le personnage est mauvais, ou au contraire, tout à fait tendre et faible, je ne sais quoi. Et le lecteur prend l'information comme ça, sans avoir à intervenir, et sans avoir à inventer le personnage, parce que Balzac lui a tout donné. Et ce qui m'intéressait, moi, c'était d'inventer des personnages que le lecteur invente à sa façon aussi, et des situations que le lecteur visionne. J'aimais bien ce rôle du lecteur qui intervient, qui interfère avec la narration, parce que je crois que c'est ça le fonctionnement de la lecture, le fonctionnement, j'allais dire, poétique de la lecture.
Eh ben, puisqu'on vient de parler du lecteur, c'est peut-être le moment de donner la parole au lecteur, s'ils ont envie d'intervenir et de poser des questions. Il est là pour un petit moment, donc il faut en profiter tant qu'il est là.
Profitez-en.
Auteur à saisir tout de suite. Si vous voulez poser des questions, il y a un micro ici, parce que comme ça on enregistre les questions pour pouvoir vous entendre aussi. Venez au micro, madame. Merci.
Je vous demandais, parce que vous avez parlé du désir et de la respiration, c'est un peu zen, quoi. La méditation, c'est un peu ça.
Oui, vous avez raison. J'aime beaucoup, beaucoup le Japon. Ça fait très longtemps que j'y vais. J'aime beaucoup la poésie, la littérature japonaise, le zen, évidemment. J'ai beaucoup fréquenté les temples. Donc, qui est des interférences zen, oui, c'est tout à fait, bon, le titre lui-même étant un haïku, j'assume tout à fait, non, ce qui est japonais, je vais vous dire, c'est pas simplement le titre, c'est l'importance énorme que j'accorde aux perceptions des personnages. Parce que c'est un roman où les personnages sont sans arrêt à l'affût, surtout Blériot d'ailleurs. Martin Winkler faisait allusion au fait que il s'est inventé une espèce d'interrupteur personnel qui lui permet de couper avec le monde. Bon, ça c'est une attitude typiquement zen, j'allais dire. C'est-à-dire qu'il a une capacité à contempler. Et j'étais tombé sur cette phrase de Lucrèce que j'adore et qui dit « Nous avons tous besoin de contempler ». Les gens raisonnables comme les bêtes. C'est une phrase que je trouve adorable. Et ce sont des personnages, oui, qui sont très contemplatifs et qui ont une attention à ce qui se passe à l'extérieur, autour d'eux. Et je pense que c'est très inspiré de la philosophie japonaise, disons. Ils ont un rapport extérieur au monde très fin, très très intense, et c'est ce qui fait aussi la densité poétique, si densité poétique il y a, la densité poétique du livre. C'est-à-dire que les personnages m'intéressent moins dans leur action que dans la perception qu'ils ont des choses autour d'eux. Et si la passion m'intéressait, la passion amoureuse m'intéressait particulièrement, c'est que la passion amoureuse, c'est une intensification de nos perceptions. Je me disais, par exemple, un homme qui trompe sa femme, c'est intéressant parce que tout à coup, il est dans un autre temps et dans un autre espace. C'est-à-dire que pendant qu'on le croit à Paris, il est en banlieue, il est dans une banlieue parfois inconnue, ils ont rendez-vous dans un hôtel, etc. Et l'idée de cet homme qui va dans un espace inconnu, dans une ville, qui va dans un hôtel, qui est dans un temps parallèle au temps dans lequel il devrait être, à Paris, à son travail, etc., m'intéressait. Ça, c'est ce que j'appelle une vision perceptive des choses. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse pas, je m'intéresse pas à l'adultère en soi, mais j'étais fasciné par l'idée d'un homme qui vivrait dans un temps parallèle et dans un espace parallèle. Et l'adultère, c'est un temps parallèle et un espace parallèle. Donc il n'y a aucun jugement, vous voyez, moral, aucune interprétation psychologique de l'adultère, mais une perception des choses, voilà, que je cherchais.
J'ai retrouvé la phrase à laquelle mais qui n'était pas tout à fait, tu vois, comme j'ai recomposé. À un moment donné, il se dit, j'aimerais pouvoir penser à autre chose. Alors à quoi ? À son enfance, à ses promenades, à vélo dans les Cévennes, à toutes ces années d'avant, avant Nora, avant Sabine, avant d'être amoureux pour la première fois. Werther ne voulait pas autre chose. Tous les hommes ont la nostalgie de ce temps énorme où la vie avait encore l'élasticité du possible. Et cette phrase, tous les hommes ont la nostalgie de ce temps énorme où la vie avait l'élasticité du possible, je me rends compte maintenant qu'elle renvoie à la fin que je ne vais pas vous raconter. Quand tu parles de temps parallèle, tu parles effectivement de... Tu as choisi de les faire évoluer dans un monde et de leur faire prendre des décisions. Et c'est ça aussi qui est cruel de la part de l'auteur, parce que c'est l'auteur qui est cruel. Hein. C'est de les faire choisir, de les faire évoluer dans un temps et dans des possibilités, mais ça aurait pu être autre chose.
Oui, bien sûr. Oui, le désir, c'est peut-être le moment où on découvre le possible, parce que je vis avec une personne. C'est Proust qui avait cette très jolie formule. Proust disait aimer une personne, c'est aimer le monde qu'elle porte en elle, et l'expérience de l'amour, ça consiste à déplier. J'adore cette métaphore. Ça consiste à déplier le monde qu'elle porte en elle. C'est ça, aimer quelqu'un. C'est déplier le monde que porte la... Et donc, si j'aime A, je déplie le monde que porte A, mais si je rencontre B, tout à coup je suis fasciné par l'idée que B porte un monde que j'ai envie de déplier. Et voilà, tout à coup je suis confronté à cette espèce de vertige qui n'est pas simplement un vertige comme on l'interprète entre deux personnes, une espèce de vertige érotique, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est le vertige entre plusieurs vies que je pourrais vivre. Or, je porte toujours en moi les potentialités, la virtualité de plusieurs vies. On est tous conscients que on fait telle chose, on a telle identité, on a tel métier. C'est une série de hasards, etc., qui ont fait que nous sommes ce que nous sommes, professionnellement, socialement, etc. Mais on sait très bien qu'on aurait pu être autre chose. On est professeur, on aurait pu être journaliste ou cinéaste, on va pas multiplier les exemples, on a tous compris. On a en nous la virtualité, mais c'est pas simplement quelque chose d'abstrait, c'est une puissance en nous, cette puissance virtuelle de des vies multiples que nous portons. Et l'expérience du désir réveille cette virtualité des mondes et de la multiplicité des choses. Alors, la raison, fait que nous n'avons et nous restons généralement avec juste notre identité, notre profession, et nous restons fixés à ça et ancrés à ça parce que c'est une question de santé mentale. Mais on sent que justement que le désir est toujours adossé à la folie à cause de ça, parce que la folie du désir, ce serait d'aller c'est de connaître un autre monde et puis encore un autre monde. Ce serait ça, explorer la multiplicité qu'on porte en soi et qui est aussi la multiplicité du monde et des mondes qui nous sont offerts de par la rencontre des autres gens. Voilà ce que je voulais dire. Et la fin. Je raconte pas la fin, mais enfin, bon, voilà, la fin porte sur ce sujet.
Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question ou... Oui, bien sûr.
Je vais l'avouer tout de suite, je triche un peu parce que je suis supposée travailler ce soir. Mais là, je pose une question. J'espère que j'ai pas manqué d'attention, mais il me semble que le sujet des parents de Blériot n'avait pas été abordé.
Non, c'est vrai, oui.
Et j'aimerais beaucoup savoir si, en fait, les parents de Blériot sont un miroir en extension de d'autres personnages en roman.
Les parents de Blériot, oui, il va voir plusieurs fois ses parents. Alors, pourquoi les parents de Blériot m'intéressaient? Parce que... le père de Blériot, celui qui l'a affligé de ce prénom ridicule, alors qu'il s'appelait Blériot Ringuet, et il a trouvé le moyen de l'appeler Louis, ce qui fait qu'il est le seul au monde à avoir voulu un fils qui s'appelait Louis Blériot. Donc son père est à la retraite, comme sa mère, ils vivent dans une maison des Cévennes. Et le personnage est intéressant par rapport à Blériot parce que il est l'image, le reflet de ce que Blériot a peur de devenir. C'est-à-dire Blériot est un homme qui hésite entre la fidélité et l'infidélité. Il est aliéné à sa fidélité, à son infidélité. Et quand il va voir son père qui a vécu toute sa vie avec sa mère, il est terrifié de voir ce que son père est devenu. Et à chaque fois, on peut imaginer, j'ajoute pas de commentaires à leur rencontre, mais on peut imaginer que Blériot en repart de plus infidèle que jamais. Parce que cette vision de son père m'a été inspirée par des hommes que j'ai connus, qui étaient donc des pères de mes amis, c'est une autre génération. Mais j'ai souvent constaté comme ça le cas de ces hommes qui, une fois leur carrière accomplie et une fois leur carrière de géniteur accomplie également, les enfants sont faits, ont grandi, ils sont à la retraite, eh bien, ils sont condamnés à fumer une cigarette en cachette et à boire du porto dans les toilettes de peur que leur femme ne s'aperçoive. Et ce sont ces hommes châtrés. Alors que ce sont des hommes intelligents, le père de Blériot est un ingénieur, un homme qui a fait une carrière internationale, qui a dirigé des chantiers, etc. Et puis on le retrouve à 60 et quelques années, avec son paquet de cigarettes qui tripote dans sa poche, en attendant que Blériot l'accompagne dans le jardin pour fumer une cigarette. Bon voilà, ça me fascinait, la manière dont on finit par être dépossédé de sa propre vie. Voilà, et ça fait terriblement peur à Blériot, mais ça fait peut-être peur à l'auteur et au lecteur, j'en sais rien. Mais c'est un cas à méditer.
C'est un peu ironique aussi, parce que dans le roman, vous dépeignez que le père de Blériot a réussi quand même un certain nombre de choses.
Oui.
Vous laissez présager que ça a été un champion de ping-pong, que bon, sa carrière est quand même quelque chose d'assez accompli, et il décline comme ça, tandis que Blériot, lui, réussit jamais à prendre quoi que ce soit vraiment à bras-le-corps. Sa carrière, il la laisse un peu comme ça, il traduit, mais c'est pas vraiment
sérieux.
Oui,
mais Blériot, il a gardé le principal, il a gardé le désir. Okay. Et son père l'a perdu. Et je crois que c'est ça, par rapport au titre, disons. Hein. Son père est un homme qui a renoncé, qui s'est résigné. C'est l'homme de la résignation. Il supporte les crises de sa femme, l'autorité de sa femme, il est résigné. Il boit son Bordeaux, ses verres de Bordeaux, et puis il fait le sourd pendant que sa femme tient ses discours à table. Voilà, c'est l'homme de la résignation. Et Blériot, ouais, ne veut pas devenir l'homme de la résignation, il veut rester l'homme du désir. Je crois que c'est ça.
Même s'il est le jouet du désir, parce qu'il n'est pas acteur dans son désir, il ne peut désirer que si Nora est là, il ne peut désirer que si sa femme veut bien qu'il la désire, mais... Mais il n'est pas acteur.
Mais je crois que le désir, évidemment, lorsqu'il trouve son objet, en est d'autant plus actuel et intense. Mais le désir peut exister sans son objet. Il est à ce moment-là à la recherche de cet objet. On peut penser que Blériot, c'est quelqu'un qui a attendu le retour de Nora. Elle revient, l'événement se produit. Voilà, et tout à coup il redémarre. Mais le désir, c'est aussi souvent une histoire d'échec, mais c'est pas pour ça qu'il faut renoncer aux yeux de Blériot, parce qu'il souffre beaucoup, tu le disais évidemment. Mais j'aime bien l'idée des deux personnages qui ont échoué quelque part, qui ont raté, parce que c'est ce qui les rend sympathiques et humains. Blériot, Murphy, etc. Ils ont tous un échec. Ce sont mes personnages sont des gens de l'échec. Tu parlais de l'éducation sentimentale tout à l'heure. Bah oui, c'est évidemment ça. C'est Frédéric Moreau, c'est l'échec. Les personnages, parce que je trouve que les vies qui se bâtissent avec un échec, une fêlure, sont souvent les vies où se dégage une espèce de poésie, d'humanité, de tendresse, et que dans une société où on nous enjoint de réussir à tout prix, j'aime les personnages qui échouent, parce qu'ils ont plus de tendresse, plus d'attention aux autres, plus d'humanité. Finalement, la réussite, c'est ce qui nous rend inhumains, et l'échec, c'est ce qui nous rend humains. Voilà, en disant rapidement les choses. Mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça.
Une autre question. Tenez, venez au micro, madame. Au micro.
Je parlais pas. Parce que
vous êtes si pressé de me le dire.
Oui, j'avais hâte de vous dire. Voilà, jolie phrase. Quand on aime quelqu'un, on veut déplier ce qu'il y a à l'intérieur.
C'est Proust. Hein.
Oui, c'est Proust. C'est très beau. Mais vous dépliez pendant longtemps. Vous avez envie de déplier longtemps. Comment ça se passe? Donc? Parce qu'à un moment donné, arrêtez-vous de déplier parce que là, vous dites non. Pas... Comment vous faites?
Vous voulez que je vous explique l'expérience du dépliement?
Parce que c'est vous qui l'avez dit, là, j'avais jamais entendu.
Mais ça n'a aucune connotation érotique. Hein.
Non. J'ai pas pensé ça. Donc.
Ah bon. Voilà. Je croyais lire dans vos pensées.
Non, j'ai pas pensé ça du tout.
Non, le dépliement, c'est l'apprentissage qu'on fait de la vie de l'autre et du monde que l'autre porte. On découvre l'enfance.
C'est ça que j'ai compris.
Voilà, on découvre l'enfance de l'autre, les lieux où l'autre a été élevé, elle a été petite fille à tel endroit, elle a grandi.
Et ça, c'est intéressant, c'est sûr.
Voilà, oui. C'est ça. Et c'est cette expérience. L'amour, c'est ça, c'est d'apprendre à déplier tout.
Et puis quand les gens s'aiment plus, c'est-à-dire que là, ils ont tout connu de la personne, ben ils s'aiment plus. Ils s'aiment moins parce que c'est moins intéressant, parce qu'ils ont tout su. Alors, est-ce que peuvent s'aimer encore autant?
Ah, ça, je sais pas s'ils s'aiment plus, je sais pas s'ils peuvent s'aimer autant. Mais je suis pas sûr qu'on s'aime plus parce qu'on a tout connu de l'autre.
C'est autre chose.
Qu'on s'aime plus parce que on est percuté par une autre vie et que aspiré par autre chose. C'est la cruauté du hasard et du désir.
C'est ça. Mais c'est très beau. C'est très très beau. Bon,
merci. Je voudrais poser une question aussi à propos de Nora. Tout à l'heure, tu as parlé de l'intensité dans laquelle on peut vivre le désir. Moi, le mot qui m'est venu très souvent pendant que je lisais le livre, c'était le mot exaspération. J'étais exaspéré. Mais je me rends compte que c'est en fait en écho à cette exacerbation du désir qu'il y a chez Blériot. J'étais exaspéré par Nora. J'avais envie de la tuer régulièrement, de la jeter par la fenêtre. Parce qu'elle est à un moment donné, il dit, il essaye de l'embrasser, il n'arrive pas à l'embrasser. C'est comme essayer d'embrasser un nuage. Et c'est ça. Nora, c'est un nuage. Elle passe. Et alors on la cherche dans le ciel, et des fois elle est là, et puis des fois elle est plus là du tout, et on ne sait pas pourquoi. Et ça, c'est maintenant, je comprends que c'est parce que Nora t'intéresse beaucoup moins que le désir de Blériot ou de Murphy pour Nora. Ou même de son ami dont j'oublie le prénom.
Léonard.
Non, sa jeune fille, la jeune fille qui était son.
Vicky,
voilà. L'amour qu'a ressenti Vicky pour Nora quand elles étaient adolescentes et qu'elles ont fait les 400 coups. C'est ça qui t'intéresse. C'est le désir de ces trois personnages pour Nora. C'est pas vraiment Nora elle-même.
Enfin, c'est pas Nora elle-même. Je sais pas définir Nora comme un personnage réaliste, comme le ferait Balzac justement, qui décrirait la jeune femme, parce que c'est un personnage, c'est le personnage de la séduction, Nora. Donc, il est littéralement indescriptible. Je pense que Nora, c'est effectivement une manière de bouger, une manière de parler, une manière d'apparaître et de disparaître. Voilà. C'est une sorte de vitesse. Je pense que c'est un personnage qui a une forme de grâce. Elle traverse la vie des autres comme une sorte d'animal de luxe, avec une légèreté, une sorte d'innocence. Elle vit dans l'instant, alors que les autres sont incapables de vivre dans l'instant. Elle a cette grâce de vivre dans l'instant, alors que les autres sont toujours dans le souci de l'avenir ou dans le regret du passé. Donc celui qui vit dans l'instant, ou celle qui vit dans l'instant, en l'occurrence c'est Nora, c'est celui qui a la grâce, presque au sens chrétien du terme, on pourrait dire, en faisant une lecture théologique, que Nora aurait la grâce et elle serait aimée par deux hommes qui seraient assoiffés par sa grâce. Nora a la vitesse et eux, ils ont la lenteur. Enfin voilà, on pourrait multiplier les oppositions. Nora, on voit jamais son image, on l'imagine toujours. Elle est vue dans le miroir des autres, et je voulais que ce soit comme ça. Que on peut pas définir la beauté, le charme, la grâce, etc. On sait simplement que c'est une manière d'être au monde, d'être à l'égard des autres, que c'est une forme de légèreté et sans doute de fêlure secrète. Parce que c'est vrai que Nora est exaspérante. D'ailleurs, Blériot remarque grâce et garce. C'est un anagramme à l'accent près. Elle a un côté garce, évidemment. Mais elle est émouvante parce qu'elle a cette fêlure qu'on devine assez vite et qui la rend toujours émouvante. C'est pas simplement une femme qui s'amuse à briser le cœur des hommes. Non, c'est plus compliqué que ça. On sent que c'est quelqu'un de fêlé et qui finalement désire le désir des autres. Et ça, c'est terrible de désirer le désir des autres. Est-ce qu'elle aime vraiment Blériot? Est-ce qu'elle aime vraiment Murphy? On n'en saura jamais rien. Mais on peut imaginer qu'elle aime être aimée. Et ça, c'est toujours redoutable.
Ben si... Oui, monsieur.
Ça m'intrigue un peu votre fameux secret disant que les hommes ne sont pas heureux. J'ai pas lu le livre, donc peut-être que ça s'explique dans le livre, mais pourriez-vous élaborer un peu qu'est-ce qui rendrait les hommes heureux? Est-ce que c'est vivre avec leur propre désir, en étant eux-mêmes et en vivant des choses inavouables? Ou bien est-ce que c'est quoi pour vous être heureux?
Ah. Non, d'abord, je resitue la citation, parce que c'est une citation, en fait, c'est une citation d'un texte de Charles Péguy. C'est Péguy qui dit que les hommes ne sont pas heureux, que aucun homme n'a été heureux depuis que l'homme existe. Je sais plus comment il le dit mieux que je ne le dis actuellement. Mais c'est lui qui a cette idée qui m'a frappé. Je suis pas en train de faire une leçon de philosophie sur le bonheur. Est-ce qu'on est heureux? Est-ce qu'on ne l'est pas? Etc. Bon, les hommes ne sont pas heureux parce qu'ils vivent dans une contradiction entre ce qu'ils doivent assumer dans une vie, de la part sociale de l'homme, sa part raisonnable, etc. Et cette part irrationnelle qui est celle du désir. Bon voilà, on peut dire que il y a c'est ça la source, mais c'est aussi parce que la vie est brève qu'on n'est pas heureux. Alors on peut dire inversement que c'est parce que la vie est brève que le bonheur est plus intense, mais on peut dire aussi que parce que la vie est brève, on peut pas être heureux. C'est pas possible, puisqu'on sait qu'on vit une histoire qui se terminera toujours mal. Donc la limite de l'expérience humaine, de l'expérience biologique humaine, est une ombre sur notre bonheur, même si on a accompli notre vie familiale, si on a accompli notre vie professionnelle, même si voilà, on a toujours cette ombre avec nous, et c'est peut-être pour ça que Peggy dit on n'est pas heureux. Et pourquoi c'est pas les hommes, seuls les hommes de 40 ans, dit Peggy, ont compris le secret? C'est parce que ce sont sans doute ceux qui réalisent à partir de 40 ans à quel point la vie est brève. Quand on a 35 ans, 25 ans, etc., on ne se rend pas compte à quel point la vie est brève. Et à partir de 40 ans, dit Peggy, tout à coup les hommes découvrent ce que les autres n'ont jamais compris, c'est que nous ne sommes pas heureux. Voilà, c'est comme ça que je le pose. Enfin, je ne suis pas dans les Peggy, dans les pensées de Peggy. Hein.
Eh ben, je vais remercier Patrick Lapeyre et le public. Et je vous recommande vivement de ne pas voler ce livre, mais de l'offrir beaucoup.
Bon, mais merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup.